Au théâtre, je me sers du bazar douloureux de l'enfance. Je trouve l'imaginaire et la fantaisie comme survie. Jouer pour ne pas rester isolé dans son rêve et mettre hors de soi ce vacarme. Et ces paysages étranges, malfaisants ou aimés, disparus, je les transporte avec exaltation dans la cage de scène. En premier lieu, il faut la flamme et le désir, et m'entourer de choses magiques et ordinaires, secrètes, familières, inclassables à coup sûr, établir des dispositifs de rêverie et de télescopage, carnaval, fantasque. Il y a la proximité du réel et l'immensité ouverte où tout délire est permis, attendu, révélé. Le théâtre est un art divinatoire, initiatique, poétique, rigoureusement. Il aura à voir avec le ciel toujours.
C'était un extrait, Macha Makeyev, de votre dernier ouvrage, Zone céleste. Elle ressemblait à quoi, votre scène imaginaire, quand vous étiez enfant ?
C'était d'abord un sac de toile avec des objets que je ramassais et... Le sac, on le vidait sur la table en métal du jardin le soir et je racontais à mon petit frère Georges qui, pour diverses raisons, avait cessé de parler des histoires à partir de ces fragments. Voilà, ça c'était les premières fictions. Depuis, elles sont plus élaborées, et tout, mais il y a toujours autant de ramassage et de préméditation avant chaque spectacle, oui.
Mathilde Monnier, votre scène imaginaire quand vous étiez enfant, ça ressemblait à quoi ?
Oui, les scènes imaginaires, finalement, je ne sais pas si on les a vécues ou si on croit qu'on les a vécues. En tout cas, moi, je me souviens, peut-être c'est faux, que je parlais beaucoup aux fleurs, aux plantes, à des tas de petits animaux qui étaient dans le jardin. Donc, je racontais des histoires tout le temps. Je dansais, sans doute, déjà, et je me balançais beaucoup.
Rosemary Stanley, vous parliez aux fleurs ?
Non, je crois que je parlais à des petits personnages. Enfin, on se racontait des histoires avec des personnages miniatures. Beaucoup. On fabriquait des maisons qui prenaient toute la chambre. Alors, c'était terrible parce que voilà, on utilisait des éponges pour faire un lit ou voilà, tout dans la maison devenait des. Il y avait des transformations d'objets permanentes et de l'espace et de la chambre, voilà.
Et Geoffrey Carré ?
Et moi, comme j'ai dit, j'étais élevé à Hollywood et le contraire de ça, moi je suis devenu, mais toute jeune, mystique, je voulais aller au ciel. Donc moi, ma vie imaginaire, j'étais avec tous les saints, toutes les choses religieuses. J'étais à l'église... essayant d'être l'enfant de cœur, tout ça, déjà à 5 ans. Enfin, pour moi, c'était tout ce qui était Dieu, des choses en haut, comme tu disais dans ton texte, le ciel. Enfin, moi, je voulais aller au ciel déjà, être un ange.
Il est 20h sur France Culture et please, s'il vous plaît, c'est un mot qui revient, please, racontez-nous une histoire. Parce que le vrai scandale, dit Macha Makeyev, c'est d'avoir grandi. Le vrai scandale, c'est qu'on n'a pas pu arrêter le temps, on n'a pas su. Lewis Carroll acquiescerait s'il était encore là. Macha Makeyev met en scène Lewis versus Alice. Lewis Carroll s'appelle aussi dans le spectacle, de son vrai nom, Charles Ludwig Dodgson. Il n'est pas habitué à être mort et il vient questionner tous les doubles qu'il s'est créés. C'est comme Macha Makeyev le décrit, un être volontairement bizarre, poétique, dans un monde où tout voudrait discipliner le corps et l'esprit. Lewis Carroll met l'enfance au présent, déteste le temps qui passe sans arrêt. Il cherche, dans la photographie, dans les mathématiques, dans l'écriture, la survie dans un ailleurs. La chorégraphe Mathilde Monnier, avec deux complices, met aussi en place des efforts pour créer sur scène un ailleurs qui peut-être va nous sauver. Le titre de leur spectacle a des airs de supplication. Please, please, please. Ils demandent surtout de l'attention, et avant qu'il ne soit trop tard, avant que tout sur la planète ne se dessèche, on danse et on parle, et l'air de rien, on tente de gagner du temps et de faire qu'on ne soit pas perdant. Le vrai scandale, c'est d'avoir rangé peut-être les rêves dans la nuit. La scène les remet au centre, ce qui permet de suivre le mot de Carole, « Soyez ce que vous voulez avoir l'air d'être ». Nous sommes donc avec Masha Makeyev, auteure, metteur en scène, directrice du théâtre de la Criée à Marseille. Son spectacle musical Lewis versus Alice, après le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, part en tournée en France et ça commence à Angers du 17 au 19 octobre. En écho, elle publie Zone Céleste, c'est aux éditions Actes Sud. Le comédien Geoffrey Carré l'accompagne. Nous sommes avec Mathilde Monnier, chorégraphe, qui prépare avec le metteur en scène portugais Thiago Rodriguez et la chorégraphe espagnole Larry Bott le spectacle Please, Please, Please. Ce sera le 15 octobre à l'espace 1789 à Saint-Ouen et puis du 17 au 20 octobre au Centre Pompidou à Paris dans le cadre du Festival d'automne et du programme New Settings de la Fondation Hermès. En studio avec nous, une voix, celle de Rosemary Stanley, avec le pianiste Clément Griffaut qui partage la scène de Lewis versus Alice à ses côtés. Ils joueront deux morceaux en studio. C'est Tous en scène sur France Culture et ça commence avec la voix d'Ethel Hatch. C'est en 1966, elle a alors 95 ans et petite fille, elle a connu Lewis Carroll.
Mon premier souvenir de Louis date quand j'avais à peine 3 ans. Le jour où ma mère m'a emmené chez lui à Christchurch avec une de mes sœurs pour nous faire photographier. On pénétrait par une porte dans le coin et on montait le vieil escalier à large rampe de chêne qui menait à son appartement. Avec son nom, C. L. Dodson, peint sur la porte. Il avait une belle grande pièce, éclairée par une large fenêtre en saillie. Au centre, il y avait une table carrée, couverte de papier et de correspondances. Tout cela bien classé en petits paquets entourés avec des élastiques. La première photo qu'il prit de moi, j'étais avec ma sœur en petite mendiante, toutes deux vêtues de haillons. Mais il y avait une quantité de costumes avec lesquels nous aimions nous déguiser. Après les séances, nous aimions beaucoup le regarder développer les photographies dans son laboratoire à côté de l'atelier. Mr. Dodson, nous l'appelions toujours Mr. Dodson, était grand et mince, avec des yeux de bleu clair. Les coins de sa bouche retroussée lui donnaient une expression fantasque, comme s'il songeait à quelque chose de drôle. Même en prenant de l'âge, ses cheveux griffés ne blanchirent jamais. Il était vêtu, comme les clergymen de l'époque, d'une longue redingote noire, une cravate plastron blanche et un chapeau haut de forme qu'il portait plutôt en arrière de la tête. On a dit que Mr. Dodson était trop timide pour causer avec des grandes personnes. Mais ma mère avait avec lui de longues et intéressantes conversations. Nous ne pensions pas à lui comme l'auteur d'Alice, mais comme un ami qu'on avait toujours plaisir à voir.
Thank you. Dans cette archive, elle ajoute un peu plus tard que s'il recevait des lettres adressées à Lewis Carroll, il les renvoyait en écrivant « inconnu ». Masha Makeyev, dans « Lewis versus Alice », il est présent, Charles Ledwidge Dodgson, puisque le tout début du spectacle, c'est Charles versus Lewis, et ce double qu'il est devenu à 24 ans en signant Lewis Carroll. Pourquoi vous aviez envie de vous intéresser à ce Charles et à son enfance et sa personnalité à lui ?
Le spectacle, c'est une traversée de l'enfance. Évidemment qu'il fallait que je m'imprègne de cette enfance victorienne qu'il a eue et de ce rapport à, après au monde définitif, parce que l'enfance ne passe pas, la sienne pas plus qu'une autre, et qu'il va désormais regarder le monde à cette hauteur-là. Alors c'est pas du tout la hauteur d'un enfant tranquille, pas du tout. C'est un rapport d'insolence au monde, c'est un rapport d'inversion, c'est un rapport de logique qui bouscule le monde et qui lui tient tête. Et cette puissance de l'enfance comme ça qu'on ne dompte pas, et qui reste toute la vie pour certains êtres enchâssés en eux et qui réclament quelque chose d'une façon tyrannique, c'est-à-dire un rapport au monde tel qu'on le veut, et qui dénonce aussi toutes les méprises et tous les mensonges dont on est les victimes quand on est enfant. Je voulais cette confrontation entre la personne en chair et en os, celle qui portait des redingotes noires, des gants gris pour cacher ses mains tachées, et qui est mort en fait. Elle est morte cette personne-là, elle est morte, mais est-ce qu'elle rêve ou est-ce qu'elle est morte? Et chez Carroll, on sait jamais si on est vivant ou mort, si on rêve sa vie ou si on rêve sa mort, ou si on dort, et si, où est-ce qu'on en est? Et lui, on sait pas, mais alors du coup, il est là sur scène, c'est Geoffrey Carré, et puis en face de lui, il y a Geoffroy Rondeau, qui lui est le mythe. Parce que voilà un garçon, Charles Ledwidge Dodgson, qui a vu son mythe devant lui se créer jusqu'à ne plus en pouvoir. Et à la fin, oui, il dit, quand il reçoit du courrier, il dit « inconnu à cette adresse ». Donc, c'est quoi cet artiste, ce poète qui refuse ce personnage convenable et qui est conforme à une époque au profit d'un être beaucoup plus excentrique, mal dans sa peau, gaucher, bègue, demi-sourd, étrange, bizarre, il le disait lui-même, je suis bizarre et je parle tout seul. Voilà, donc cette confrontation, j'ai écrit des dialogues entre les deux, à partir évidemment d'éléments que j'ai puisés dans toutes les lectures. Et ce qu'on a entendu, l'archive est magnifique, la voix est magnifique, et ce qui est c'est une revenance comme ça, c'est splendide. Mais j'avais lu ce qu'elle a, la transcription de ça, mais je n'avais pas tout. On a l'impression d'entendre encore les marches qu'elle montait pour aller dans la chambre.
Et puis c'est encore, la description est très longue, là on a un petit peu écourté, mais oui, c'est assez fascinant comme elle se souvient très précisément, oui, de l'escalier qu'elle montait, l'étage, à quoi ça ressemblait, de tous les objets.
Oui. Oui, le vert, le rouge, etc. Et le désordre ordonné de cet excentrique. Et dans le spectacle, je voulais vraiment évoquer ça, exactement ça, les voix perdues et les bruits des choses.
Geoffrey Carré, vous l'avez imaginé comment, Charles Ludwig Dodgson?
Mais c'est-à-dire, élevé en Amérique, j'ai eu, comme je disais à Rose, je crois, au début, presque une non-amour pour Lewis Carroll, parce que quand on est jeune là-bas, il faut toujours jouer chaque année. Je disais, je ne peux plus jouer le lapin, the rabbit, et c'est one more time, I'm late, forever. Et j'étais complètement, tout le monde croit que je suis anglais, parce que j'ai l'accent anglais en français. Donc, quand j'ai vu Masha, j'avais un peu peur, parce qu'elle m'a dit, bien sûr, vous connaissez le poème, le Jabberwocky, comme tous les Anglais. Et j'étais, donc j'ai commencé à plonger dedans et j'ai vu vraiment l'homme, parce que j'ai jamais pensé à la hauteur, c'est incroyable, on a toujours pensé à cette mythe, à cette Alice in Wonderland, et j'ai jamais, et grâce à Masha, j'ai cette poète incroyable, cette rebelle, cette monsieur d'une extraordinaire lutte contre tout ce qui n'est pas belle dans la vie, c'était une grande découverte pour moi. Donc moi, j'ai essayé comme acteur dans les grands âges, juste essayer déjà d'être là. Et c'est entré dedans moi. Donc en fait, je suis Charles Ludwig Dodgson. Mm-hmm. Le soir, entre 8h et... Donc, je travaille un peu comme ça parce que j'ai pas imaginé autrement, parce que le texte est tellement riche et ce que Madame fait, enfin, le plateau est tellement riche de Carole, enfin, tout ce monde qu'on a. Il faut juste essayer d'être dedans et de suivre.
Est-ce que tu m'as vraiment menti jusqu'au bout ou est-ce que ta mère est anglaise, comme tu me l'as dit?
Si. Ah. Mais j'étais élevée en Amérique quand même.
Et oui, donc, quand même, à Hollywood. Il y a des jeunes.
Oui, enfin, j'ai menti. J'ai jamais dit que je n'étais pas anglais. J'ai rien dit.
Macha Makeyev, dans Zone Céleste, vous racontez un petit peu la genèse de la création et vous citez Valérie qui dit « La poésie est une hésitation prolongée entre le sens et le son ». Et dans le spectacle, c'est majoritairement français, mais il y a beaucoup d'anglais aussi pour entendre la langue de Lewis Carroll. Pourquoi c'était important pour vous
Parce que c'est le matériau absolument nécessaire au poète. Et alors là, vraiment, les règlements de Lewis Carroll, qui par ailleurs les détestait, mais qui en invente, c'est que les mots, c'est d'abord des sons. Et après, le sens, non seulement on met le sens qu'on veut, mais on est le maître des mots. Donc il fallait sans arrêt faire entendre le français, bien sûr, mais aussi, quelquefois, le français est absolument incompétent pour rendre compte du poétique de Lewis Carroll. Donc on passe à l'anglais. Et puis l'anglais, c'est... Pour nous, c'est un continent magnifique. Quelquefois, même si on ne perçoit pas le sens, on le prend comme un matériau sublime qu'on aime et qui nous appartient. Et je voulais vraiment que, une fois de plus, le texte soit un des matériaux comme les corps, comme les bruits, comme l'espace, comme les choses et les lumières aussi. Il y a les lumières de Jean Bellorini qui sont magnifiques et qui prennent de l'espace, enfin, de l'espace comme le son. Et la bascule de l'anglais au français, je crois, se fait comme un mouvement, et pas seulement dans le sens. Bien sûr qu'il y a des traductions aussi, il le faut. Mais quelquefois, on s'amuse aussi de l'impossibilité de traduire une langue comme l'anglais.
Comment vous la définiriez, Geoffrey Carré, la langue anglaise, même si vous êtes très américain, de Lewis Carroll, la sonorité, l'humour, le...
En fait, en vivant en Europe depuis très longtemps... Je suis beaucoup plus la tendance anglaise et on avait même un coach pour nous,
Camilla Barnes,
extraordinaire dame qui était élevée à Oxford, qui est vraiment. Donc, je trouve que l'anglais, enfin, c'est dans les mots, c'est les sons, c'est une puissance beaucoup plus des fois que l'américain sur le plateau. Enfin, je parle pas de cinéma, mais sur un stage, un plateau, c'est à l'anglais est précis et c'est très musical. En même temps, c'est concrete, c'est concret. Enfin, c'est, il y a une chose de, il y a une proie, une, c'est, je crois que c'est très direct et je bégaye comme Lewis aussi des fois. Alors mais c'est très direct à l'anglais, je trouve. Et, je sais pas, c'est très, très musical. C'est le corps qui, enfin, c'est tout le corps qui bouge dedans.
Rosemary Stanley, enfant, vous aviez Lewis Carroll sur votre table de chevet?
Oui. Oui, et en cassette aussi, en fait. On écoutait beaucoup ça pour nous endormir.
Et là, en imaginant l'univers musical de Lewis versus Alice, est-ce que ça faisait écho très fort aussi à votre univers à vous?
Ben, complètement. Alors, en fait, pour plein de raisons, il se trouve que... je connaissais très bien l'univers de Macha et c'est un univers auquel j'adhère complètement et dans lequel je me retrouve complètement, que ce soit les animaux empaillés, tous les détails, les couleurs, les petites choses que les spectateurs peuvent à peine voir, mais toutes les petites lampes, tout est étudié de manière extrêmement précise et à la fois ça fait référence à Lewis Carroll, mais ça fait aussi référence à des enfin il y a toujours une justification, rien n'est là par hasard et du coup des fois c'est parce que Macha raconte des histoires aussi avec tous ces objets, je trouve, et elle arrive à nous transmettre ça et moi ça me parle énormément. J'ai une relation aussi aux objets qui est assez particulière et donc voilà, pour moi c'est oui, j'ai l'impression d'être un peu chez moi.
Vous êtes la reine de cœur, entre autres.
Oui, donc c'est mon palais.
Masha Makayev, la scénographie, il y a cet univers un peu mental, cette maison sans toit, et puis vous l'appelez la volière noire. Oui. Comment vous l'avez imaginé, cet univers mental?
J'ai fait un premier décor, puis j'ai tout mis à la corbeille. J'en ai fait un deuxième, une nuit, parce que c'était... je voulais que ce soit comme un jeu de cartes, et très très fragile, avec cette fragilité-là, et en même temps, comme dans un rêve, on s'en débarrasse pas comme on veut. Et en même temps, il y avait quelque chose de gothique, mais c'était battu de tous les vents, parce que je voulais que ce soit traversé par les rêves de chacun, chaque personnage. Donc, il fallait que rien ne fasse obstacle à leur rêverie, et surtout qu'ils soient, alors là, je parle des acteurs aussi, totalement désorientés, parce que je prémédite beaucoup et je fais le décor vraiment pour chaque corps de la, enfin, chaque acteur. Vraiment, je me dis, elle passera là, elle viendra là, il sera là, etc. Et je voulais qu'ils soient totalement désorientés, qu'ils ne savent plus où est le haut, le bas, les quatre points cardinaux complètement affolés. Donc il fallait faire cette grande volière. Et on ne sait pas si on est dedans ou dehors et ce qui se passe dedans et dehors. C'est aussi vraiment en pensant, bien sûr, aux personnages, mais c'est aussi en pensant aux acteurs. Oui.
Vous cachez toujours un gris-gris dans le décor?
Oui. Oui, celui-là, cette fois-ci, c'est une espèce de grenouille en laine bouillie, avec des yeux un peu exorbités, extrêmement sympathiques, et que j'ai caché dans le décor, mais personne ne le saura. Il est transporté avec vous.
Ah bon?
Dans le camion. Oui.
C'est où?
Il faudra me supplicier pour que je te le dise.
Ah, c'est génial, je savais pas.
Il faut trouver la grenouille maintenant.
Okay.
On va écouter quelques mots de Marguerite Duras sur Lewis Carroll.
Oui. Dans beaucoup de ses lettres, de ses histoires, de ses histoires-lettres, de ses non-histoires, de ses contes, de ses anticontes, on retrouve le même déroulement inéluctable, mathématique, que dans Alice au Pays des Merveilles. Le détail n'est jamais abandonné en route. Il sert toujours la cause première, posée au départ. Un petit chat, écrasé sous un buvard, n'est jamais abandonné. La lettre n'est jamais édifiante. Elle est aussi loin de la fable qu'il est possible. La gronderie en est absente, sauf pour des raisons, dirons-nous, sentimentales. Mais non la colère, contrairement à ce que disent les commentateurs. Non la colère, non l'impatience contre l'immuabilité, la résistance des formes extérieures, des conduites humaines. Enchaînée à la logique par un don de surcroît, celui des mathématiques. Enchaînée à la morale, par hasard ou choix, comme on voudra, la piété. Il fit servir cette logique et cette morale à se jouer d'elle-même comme jamais encore avant lui. Il nous fut donné de voir.
Il y a quelque chose d'assez fort, Masha Makayev, comme Marguerite Duras le dit, cette lutte contre l'immuabilité, ou en tout cas contre les choses disciplinées, prévues, rangées. Et vous parlez donc de cet être... volontairement bizarre, en tout cas qui regarde et qui écrit le monde d'un endroit très particulier. Qu'est-ce que ça raconte de peut-être la folie, de ce que ça permet, est-ce que ça ouvre ?
Ça ouvre des champs de liberté immenses, justement entre sonorité et sens, comme on l'a dit, mais pas seulement aussi comme attitude au monde. Mais c'est aussi un rapport à la rêverie, c'est-à-dire la rêverie comme un privilège absolu ou avec des zones de surnaturel où on est totalement libre. Et j'aime beaucoup entendre Marguerite Duras parce que si on va plus loin dans l'enregistrement, elle dit les mots anglais, elle les prononce très très mal, elle les prononce à la Duras et c'est admirable. Et je pense que Carole aurait adoré. Et c'est aussi, j'ai pas pu moi, évidemment j'ai lu et relu Lewis Carroll avec le regard qu'avaient les surréalistes, je peux pas faire autrement, ceux du XXe siècle. Et j'avais même écrit, parce que on a été obligé de couper beaucoup, mais j'avais écrit une scène où on invitait Duras, Aragon, et d'autres comme ça autour de la Artaud, qui revendique vraiment d'avoir inventé les choses bien sûr, avant, puisque lui aussi, il bascule le temps, avant Lewis Carroll. Enfin, il dit en deux mots que Lewis Carroll lui a tout pris. Et donc, j'avais imaginé un autre thé chez les fous, une tea party avec tous ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas, nous, gens du 21e siècle, mais moi je suis très 20e, et je ne pouvais pas imaginer de lire ça sans le regard des surréalistes qui ont vraiment honoré, surtout Aragon. Il a compris Carroll d'une façon formidable. Mais vous voyez la voix de Duras, même si on, au bout d'un moment on est bercé, et si on élimine le son, voilà la poésie la poésie carolienne, elle est là. Vous mettez le sens que vous voulez dans les mots qu'elle dit, et ça existe encore. C'est une façon, ce qu'il nous dit, c'est l'effroi de l'enfance devant la métamorphose, mais c'est aussi le fait d'exister même quand on est mort. Et ça, c'est très important, enfin, c'est important pour chacun de nous. C'est pour ça que j'aime les objets, les animaux empaillés. Rosemary faisait allusion aux bêtes qui sont sur le plateau, parce qu'ils sont morts, ils sont absolument là, et ils nous disent tout le temps qu'ils existent. Et voilà un des sujets caroliens que nous évoquons ensemble le soir sur le théâtre.
En parlant de la mort, il dit « L'important, c'est de filer à l'anglaise et de glisser dans l'imaginaire ».
Voilà.
Mathilde Monnier, peut-être juste, quelle place ça a, ces intuitions de l'enfance, ce côté un peu surréaliste, ces refuges qu'on se crée quand on est enfant dans votre travail aujourd'hui? On parlera de votre complicité avec la Ribotte tout à l'heure, mais je pense à un premier spectacle que vous aviez fait ensemble, Gustavia, où il y avait beaucoup de choses, mais notamment un côté très burlesque, très clownesque, qui s'amusait énormément, comme on peut le faire dans une scène imaginaire, voilà, quand on est enfant.
Je crois que l'enfance est très, très souvent là, alors plus ou moins, ça dépend des spectacles. Et c'est vrai que dans Please, l'enfant est là, mais l'enfant est là tout à fait à une autre place. Puisqu'en fait, cette fois-ci, on parle avec... Enfin, moi, il y a notamment un dialogue où je parle avec un bébé. Et le bébé, c'est Maria. C'est Maria la Ribotte qui joue le bébé, un bébé qui parle en espagnol.
Qui vient de naître.
Et qui vient de naître et qui parle.
Et qui interpelle sa mère.
Et moi, je ne parle pas espagnol. Enfin, je parle un petit peu, mais dans le spectacle, je ne suis pas censée parler espagnol. Et donc... Je commence à m'interroger pourquoi mon bébé qui vient juste de naître, qui est dans mes bras, tu es dans mes bras, et pourquoi est-ce que tu ne parles pas ma langue? Je suis ta mère, parle dans ma langue. Et voilà, ça donc ce rapport à l'enfance, il est très très présent dans cette pièce, Please, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure.
D'ailleurs, l'enfant répond que c'est trop de pression tout à coup de se faire reprocher, oui, de parler une autre langue, alors qu'il vient juste de naître.
Pression. Tu me mets la pression.
Tu me mets la pression.
Tu me mets la pression. Oui, si me mettez la pression.
En parlant de danseuse, Angelica Lidl s'appelle Lidl comme Alice Lidl. J'imagine. Hein. Je ne peux pas imaginer autrement. Je n'ai pas eu de. Je n'ai pas de preuve.
Mais a écrit Alice.
Voilà. Ouais. Et c'est tellement ça, cette rébellion aussi. C'est une héroïne absolument rebelle. Et voilà que nous avons besoin de ces artistes-là aussi pour nourrir cet imaginaire-là.
Et dans Zone Céleste, Macha Makeyev, il y a des très belles pages où vous parlez de votre propre enfance et de votre frère Georges, et de ce monde dans lequel lui est resté, ce monde de l'enfance. Et c'est assez beau comme vous décrivez, c'est là où vous dites « on n'a pas pu arrêter le temps, le vrai scandale c'est d'avoir grandi ». Et puis le fait que vous écrivez « je ne suis pas restée de l'autre côté des choses avec toi, ce monde où j'allais ne t'accueillait pas, tu n'avais pas de place dans la ronde ». Et la façon dont l'enfance a été très, très... Et ces jeux-là que vous décriviez au début de l'émission ont été très importants. Mais vous avez basculé de l'autre côté du miroir. Vous n'êtes pas resté
dans cet
espace-là.
J'ai fait de ma vie le récit des histoires. Oui, je me suis mise à raconter des histoires. Et, oui, mais ça passe pas, ça. Hein, c'est toujours là. Et je pensais qu'avec ce spectacle, ça irait mieux. Pas du tout. Non, pas du tout. Je reste toujours à... Dans cette attente que quelque chose se passera qui fera que ça sera différent, comme quand on est enfant, quand on vit quelque chose de terrible, on se dit, mais après tout, si on pouvait effacer, si on pouvait renverser les choses, si ça pouvait se passer autrement, mais il y a quelque chose d'inéluctable, mais il le faut, enfin voilà, moi j'impacte un peu avec mon frère Georges, qui est justement de rester à cet endroit, de ne pas accepter l'inéluctable, et donc d'inventer du surnaturel, de la fiction, de la rêverie, pour juste comme contrepoison à tout ça. C'est important, ça. Et il y a très peu de temps que je réussis à parler de cette chose-là, mais c'est aussi parce que Lewis Carroll m'y autorise et nous y autorise à célébrer ces êtres qui sont, alors qu'ils soient poètes ou qu'ils soient dans le monde ordinaire, ils sont à des endroits très importants et ils sont absolument inspirants pour nous autres, vraiment. Et voilà, ils sont, même silencieux, ils sont très éloquents. Et mon frère, que j'ai eu une courte conversation il n'y a pas très longtemps en préparant le spectacle, et puis après c'était devenu trop difficile pour lui et moi, mais il m'a dit ça, il m'a dit, mais tu sais très bien que j'invente des histoires parce que c'était l'enfer. Et voilà, ça m'a remise à ma place, au fond. Et j'ai bien revérifié que j'étais passée de l'autre côté du miroir et que... Mais bon, c'est une chose... C'est le théâtre qui vous guérit de ça, au fond. Parce que nous, on passe toujours de l'autre côté. Mais en plus, moi, je passe jamais seule. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est qu'on est jamais seul. On a absolument besoin du corps, de la voix, du psychisme, du talent, du génie de l'autre, tout le temps. Et sans arrêt, c'est une mesure qu'on découvre sans arrêt. Voilà. Et ça, c'est immense. C'est immense, le théâtre, de ce point de vue-là. Voilà, le théâtre est là-dessus, à la fois une révolte et un apaisement. C'est les deux. C'est un spectacle, mine de rien, avec beaucoup d'effroi et beaucoup de colère.
Beaucoup d'inquiétude.
Oui, parce que l'enfance est une zone d'incertitude absolue, une zone incertaine et d'inquiétude définitive.
Rosemary Stanley et Clément Griffaud, on a installé un piano, alors c'est pas un piano à queue, mais on a fait ce qu'on pouvait dans notre studio pour pouvoir entendre un des morceaux du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu comment vous avez imaginé cet univers sonore et musical ensemble pour Lewis versus Alice, Clément Griffaud?
Pour rebondir par rapport à ce que disait Macha quant à la liberté, j'ai pris une place... d'improvisateur à chaque spectacle, et donc ça change tous les soirs à chaque représentation, et je pense qu'on parlait de plein de choses, de vertige, d'angoisse, et je pense que c'est aussi une position, moi, qui m'a permis de me placer à cet endroit d'inconnu, de hasard, de vertige, d'improvisation.
Et ce premier morceau qu'on va entendre,
le premier morceau, donc c'est ça s'appelle Where is the Light, et c'est ça raconte justement le basculement dans le rêve au moment où on tombe dans le sommeil, et tout ce qui vous semble connu et proche en tout d'un coup devient justement menaçant et prend des formes un peu étranges. Voilà, c'est plutôt le basculement dans le cauchemar exactement. Mais voilà.
Je vous laisse vous lever et rejoindre le piano.
Je suis Rosemary Stanley avec Clément Griffaud au piano. Nous sommes en studio avec Macha Makaïev, Geoffrey Carey et Mathilde Monnier. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron.
Thank you. My bed is a bath and my bath is a boat. My mother is a cat and my father is a goat. Don't be afraid, we will hide in the shade. Don't be afraid, it's still room in the bed cage. Help me to find what I am looking for. What I am looking for, I'm not yet really sure. Oh, where is the light? Oh, where is the light? Where is the light? Won't you turn on the light? Oh, the light, please. The light.
On va écouter la voix de Pina Bausch, c'est en 1990 et c'est un extrait des Nuits Magnétiques.
Ich bin nicht um den Tanz alleine, das ist ja also irgendwo, wenn ich bin, wenn ich einen versuche ein oder wir zusammen ein Stück erarbeiten und ich wirklich versuche zu wissen, also was habe ich denn jetzt zu sagen, jetzt in dieser In dieser Zeit, in der dieses Stück entsteht, in dieser Zeit, in der wir leben.
Pour monter une nouvelle pièce avec la compagnie, on part toujours de la même question. Qu'est-ce que nous voulons exprimer aujourd'hui?
Konkret, in dieser Welt mit allen Problemen, also da, wo ich bin, meinen persönlichen, alles, was ich höre, was ich sehe, mit dem Tanz, all den Menschen, die in der Compagnie sind. Das ist erstmal der Anfang, also irgendwo, und da, wo bin ich jetzt.
Au début de notre travail, il y a alors notre vie quotidienne, avec tous nos problèmes, avec tout ce qu'on peut voir et entendre.
Ich spreche über uns, über die Leute, ich spreche über etwas in der Welt, ich spreche über unsere Angst, ich spreche über die Vergangenheit, ich spreche über die Zukunft. Irgendwie sind da so viele Dinge enthalten, irgendwo, dass man...
Je parle de nous, des gens, je parle du monde entier, de notre peur, je parle de notre passé et de notre avenir. La danse contient tant de choses.
Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass jemand also diese Vielfalt von allen Dingen, man sich wünscht, dass die da sind, meine ich natürlich nicht nur die Tanztechniken. Das meine ich nicht damit. Diese Tanztechniken müssen gepflegt sein, damit man fertig ist. Also wenn man
je vise une certaine multitude, multitude pas seulement des techniques de danse. Il faut bien sûr les travailler. Puis je développe mes propres manières de bouger, de danser. Mais cette multitude réside aussi dans ma compagnie elle-même. Ils sont tous très différents, mi-acteurs, mi-danseurs. Et ils ont tous leur propre caractère. Et avec tout cela, on fait peut-être des miracles, ou peut-être des spectacles qui se situent entre la réalité et le miracle.
Mathilde Monnier, vous connaissez par cœur les mots de Pina Bausch.
Non, pas par cœur. Mais voilà, c'est toujours extraordinaire parce que c'est très simple. Chez Pina, on comprend immédiatement quand elle parle de son travail. On voit le travail, on voit les spectacles, on voit la compagnie qu'on connaît depuis tellement d'années.
J'aimais bien cette archive parce qu'elle parle du début du travail et du fait très simple de se réunir et de parler de son quotidien, de ses peurs, de l'avenir. Et c'est vrai que pour ce spectacle, Please, 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 je ne sais pas comment vous avez fait, mais on vous imagine vous réunir avec Larry Bott et Thiago Rodriguez et puis réfléchir ensemble justement à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, de quoi on a envie de parler, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, puisque c'est la première fois que vous faites quelque chose tous les trois, en tout cas... Vous aviez travaillé avec Larry Bott toutes les deux, mais là, il y a Thiago Rodriguez, metteur en scène et auteur portugais, qui vous rejoint. Est-ce que j'imagine ça ou est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que vous avez parlé de votre quotidien, de vos peurs et de l'avenir ensemble?
Vous imaginez très bien parce qu'en fait, on a effectivement beaucoup parlé, presque trop, parce que finalement on a eu assez peu de temps sur cette création, et on imagine avec trois univers, trois imaginaires de trois personnes qui sont extrêmement différentes. Alors Marie et moi, bien sûr, on est comme deux sœurs sur un plateau, on est comme deux jumelles, on a beaucoup tourné ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble, mais d'un coup la présence de Thiago, qui lui raconte beaucoup d'histoires, parce que Thiago, son théâtre c'est beaucoup un théâtre d'histoire, un théâtre de souvenirs, de ses souvenirs, un théâtre des souvenirs du Portugal, même si je dis toujours c'est un théâtre de la négociation, c'est-à-dire c'est un théâtre qui est vraiment en dialogue avec le public, qui est tout le temps dans une espèce de rencontre très vivante avec le public, comme s'il était en direct. On a l'impression que ça se passe dans l'instant. On n'a pas l'impression qu'il raconte quelque chose d'un autre temps. Et donc on a effectivement beaucoup parlé. Ça a été assez difficile. On a eu beaucoup de mal à accorder nos violons, on va dire, parce que je pense qu'on est tous les trois très exigeants. Et en même temps, on est tous les trois personne ne voulait ni tirer la couverture vers soi, ni on voulait trouver quelque chose entre nous. Et entre le texte, des textes de Thiago, des histoires de Thiago, et puis bien sûr Maria et moi, nos corps, on voulait aussi danser. Et cette conjugaison des deux, elle est pas du tout facile. Donc on a beaucoup cherché autour de ça pour finalement trouver une forme qui nous a plu, et pas une forme où on danse en disant des choses, mais une forme extrêmement énergique et très physique, où on raconte des histoires comme une espèce de marathon, parce qu'on n'est pas en train de courir, mais on fait des rythmes. En fait, on est tout le temps en rythme. On est presque pendant 25 minutes à faire des rythmes, et en même temps, dans une espèce de course infinie, à raconter les histoires de Thiago. Donc c'est vraiment ce mélange des deux textes et corps qui allaient en même temps.
Et on parlait de l'enfance inquiète avec Macha Makayef, et vous évoquiez une discussion entre une fille et puis sa mère. Est-ce que ça, c'était au centre aussi, j'ai l'impression, au cœur de vos préoccupations, l'enfance qui pose des questions à la génération qui précède, et en demandant un peu des comptes aussi?
Je crois qu'on était tous, on a beaucoup parlé de ça, on était tous émus de voir, de comprendre finalement une génération qui peut-être nous reprochera des choses, va nous reprocher des choses. On a beaucoup parlé de ça, et qui sont nos enfants finalement, parce que tous les trois on a des enfants, et cette difficulté de se positionner, d'accepter aussi peut-être que on n'a pas fait toujours les choses très bien, cette difficulté aussi de dire la vérité face à des enfants qui demandent la vérité. Or, il n'y a pas une vérité objective, mais cette situation de se retrouver presque coupable. Je dis souvent, on est responsable, on n'est pas coupable, mais on est responsable quand même. Et c'est cette situation-là dont je pense le spectacle parle. C'est-à-dire qu'on essaye de quand même garder un dialogue avec l'enfant, malgré toutes ces difficultés. Et dans ce dialogue, on essaye de garder l'espoir. Et c'est ça que la pièce dit, ça va être très difficile. Mais on va quand même essayer, dans notre relation, qu'il y ait de l'espoir. Parce que quand tu grandiras, tu pourras encore te mettre du rouge à lèvres. Quand tu grandiras, tu pourras encore monter sur un bateau. Et voilà, l'espoir continue. Donc voilà, c'était une pièce là-dessus, sur un monde qui est en train de... pas sans doute de s'ébranler, et en même temps des relations de mère à son enfant qui restent très très tendres, qui est l'amour, des relations d'amour tout simplement.
Parce que le jeune enfant qui vient de naître, il dit quand même à sa mère, petit à petit, donc au début la fille parle espagnol, donc la mère comprend pas du tout pourquoi son bébé ne parle pas la même langue qu'elle, et puis petit à petit elle se met quand même à parler français, elles peuvent dialoguer, et puis l'enfant dit « Please, arrête les promesses, arrête avec ton espoir, pourquoi dire des mots qui ne veulent plus rien dire? Vous avez échoué, vous n'avez rien fait, je n'ai plus envie de promesses. »
Oui, parce que la mère, en fait, elle essaye de faire miroiter un monde qui, quand même, malgré tout, maintient de l'amour, maintient de la beauté, maintient de l'espoir. Et l'enfant lui dit sans cesse, mais arrête de me promettre des choses, arrête, et arrête aussi de me promettre que tu ne vas pas mourir. Donc c'est vraiment presque tout le texte de la fin, c'est un texte sur la promesse. Et l'enfant sait que la mère ment, finalement, qu'elle ne tiendra pas ses promesses. Jusqu'à la dernière promesse de la fin, je ne vais pas la dire, mais elle est extraordinaire, la dernière phrase du spectacle, qui est une promesse sur la mort. Voilà, et c'est cette relation finalement qu'on a avec un enfant qui vient de naître où on voudrait tout lui promettre, on voudrait le mieux pour lui, mais finalement, est-ce qu'on va être capable de tenir cette relation? Est-ce qu'on va être capable de lui apporter tout ce qu'on voudrait? Est-ce qu'on s'en donne les moyens aussi?
Et l'idée de ce titre, Please, 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 c'était assez beau parce que la chanson de Rosemary Stanley et Clément Griffo se terminait par Please the Light. Comment il est venu ce titre, Mathilde Monnier?
Alors en fait, Please, c'est un morceau de James Brown, voilà, qui est un morceau très très connu. Et alors c'est génial ce morceau parce que en fait, on l'a beaucoup beaucoup regardé, mais ce morceau à la fin de James Brown, c'est là où il a trouvé un espèce de truc de scène absolument dinguissime. C'est qu'à un moment donné, il se jette par terre à genoux. Et il a un de ses collaborateurs qui arrive et qui lui met une cape sur le dos et qui le relève et puis lui revient vers le micro et il se rejette à genoux et il fait ça, mais alors on le rentraîne vers la sortie et il recommence. Et en fait, quand il a fait ça, James Brown, il a compris que c'était un espèce de truc absolument totalement populaire qui allait complètement être attendu par le public. Et après, il a commencé à le faire à chaque concert, cette espèce de façon de se jeter par terre, et le public attendait qu'il se jette encore une fois à genoux, suppliant, donc devant ce public qui, voilà, qui l'acclame.
Rosemary Stanley, vous voyez exactement l'image.
Ah oui, je connais très bien le morceau. Ouais, c'est vraiment une déclaration d'amour d'un homme à une femme. Et il se met à terre, justement, il lui demande de le reprendre, en fait. Je dis pas que c'est rare, mais on voit plus des femmes éplorées dans cette position-là, voilà, et c'est beaucoup plus rare chez les hommes. Évidemment, Je ne quitte pas de Brel, mais ce morceau-là, en fait, chez James Brown, qui est plutôt le symbole, un symbole masculin, très plutôt virilité, etc. Tout d'un coup, je pense que pour lui, ça lui a fait, je pense, un décollage dans sa carrière aussi. Bah, tout d'un coup, voilà, une autre vision de l'homme, en fait.
Mathilde Monnier, est-ce qu'on peut lire un extrait, donc un des textes du spectacle Please, 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 écrit par Thiago Rodriguez? Et ça, c'est un de ceux que vous dites, vous.
Oui, je le dis. J'écris une lettre à mon père. Enfin, je trouve le courage de lui dire ce que je pense, pour lui dire que j'ai toujours été en désaccord avec ce qu'il m'a appris, pour lui dire que le monde dans lequel il vit n'est pas celui où je veux vivre. J'écris. Ce que tu appelles le futur, c'est tout ce que je veux combattre, et vice-versa. Ce qui est normal pour toi sera pour moi une fantaisie, et vice-versa. Tout ce qui t'enchante me laissera indifférente, et tout ce qui te laissera indifférent m'enchantera. Ce que tu appelles le confort sera pour moi l'inconfort. Ce qui pour toi est l'innocence sera pour moi un signe de culpabilité. Ce qui pour toi n'a aucune conséquence pourra creuser ma tombe. Ce qui t'apportera du plaisir sera l'origine de ma souffrance. Ce qui est pour toi inimaginable sera mon quotidien. Ce qui est pour toi le quotidien sera pour moi inimaginable. Ton exception sera ma règle. Ton oui sera mon non. Ton amour sera ma haine. Ta promesse sera mon silence. Je termine ma lettre. Je la glisse dans une enveloppe. Je sors acheter des timbres. Je trouve la papeterie fermée. Je reviens chez moi. Je n'envoie jamais la lettre. Aujourd'hui encore, je déjeune tous les dimanches avec mon père et j'approuve tout ce qu'il me dit.
Et Mathilde Monnier, la réponse organique, physique à tout ce dont on vient de parler, cette possibilité ou non de parler entre générations, et puis ce qu'on imagine, cet espoir qu'on peut avoir ou pas pour l'époque, pour la planète, c'est l'endurance. Vous parliez de la course et du marathon.
Bah, c'est notre manière, à Marie et moi, c'est ce qu'on a trouvé pour rendre les textes extrêmement vivants et aussi s'occuper le corps. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas du tout à dire les textes comme des comédiennes, c'est-à-dire sans bouger, droite sur un plateau. On ne trouvait pas la voix, c'était très 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 difficile. Donc on a commencé à faire cette séquence qui dure 30, presque 30, plus de 30 minutes, où on est tout le temps avec une sorte de batterie des jambes, très très vite. Et là, le texte que je le dis complètement essoufflé normalement. C'est-à-dire, je suis vraiment déjà au bout de presque 20 minutes de ce marathon, c'est une sorte de marathon. Et en même temps, il faut dire le texte d'une façon très douce, très claire. Et il faut quand même être dans le texte. Donc on a le corps coupé en deux. À la fois, on est dans le texte et on est aussi dans ces rythmes qui sont des rythmes qui changent tout le temps, qui sont liés à une batterie. Donc voilà, on est un peu dichotomisé, mais ce souffle, c'est aussi l'espace vital, c'est-à-dire c'est la force vitale aussi qui nous permet de parler de textes qui sont parfois difficiles ou parfois comme la lettre au père. Finalement, il va pas envoyer la lettre, il a pas le courage de le faire, mais voilà, là il y a une énergie quand même dans la façon dont on le dit, qui reste très vivante et joyeuse.
On va rester dans l'enfance inquiète mais joyeuse quand même, avec un nouveau morceau. Macha Makaev dit oui, joyeuse. Oui,
on rit aussi. Il n'y a pas possibilité de dire la mélancolie des choses et des êtres sans l'humour. Sinon, ça serait une faute de goût.
Donc c'est vrai que le spectacle Lewis versus Alice est aussi très très drôle. Et on va écouter un deuxième morceau qui fait partie du spectacle avec Rosemary Stanley et Clément Griffot. Et celui-là, c'est lequel, Rosemary ?
Ça s'appelle Alice et Lewis ou Soon Will Come Too Soon.
Tomorrow, you don't act now, you just know, fairy town turned into a ruin. Soon has come too soon, has come too soon, has come too soon. Soon has come too soon, has come too soon, has come too soon.
Masha Makayev, vous écrivez que vous détestez le théâtre raisonnable.
Oui, justement.
C'est quoi le théâtre raisonnable?
J'étais en train de penser à ça en écoutant Rosemary et Clément. Je me disais, après tout, une partie du théâtre, c'est un exercice d'admiration, en fait. Et on fait du théâtre aussi pour admirer, les autres arts qui, en arrivant sur scène, deviennent du théâtre. Donc, évidemment que c'est pas raisonnable. Les durées sont pas raisonnables. Il n'y a pas d'esprit de sérieux, jamais. Ça, c'est la première chose. Ma première détestation.
Jeffrey Carré, vous aimez le théâtre déraisonnable?
Oui. Je crois que j'ai une chance. Je crois que je fais que ça. Parce que, avec l'accent et tout ça, ça tire ça, peut-être. Moi, même sans le faire exprès, mais... Mais en tout cas, cette œuvre qu'on fait là, il y a toutes ces choses déraisonnables, mais en plus, on a, et j'ai dit, on ne dit pas assez en France, une énorme plasticienne, Madame Makayev. L'art visuel qu'on a avec nous aussi, ça fait partie aussi de cette déraisonnabilité. Je sais pas comment on dit, mais oui, j'aime ça.
Mathilde Monnier, le théâtre raisonnable, ça vous dit pas non plus?
Non, je crois que je saurais pas très bien faire. Non, je suis plutôt quelqu'un de très déraisonnable. Et même souvent, il faut un peu me contenir parce que j'ai, ça peut aller même très loin. Donc c'est pas
et
mon.
Et la ribote aussi.
Et la ribote aussi. Il faut plus au contraire nous maintenir, nous donner des limites. Je crois que c'est mieux parce que effectivement, on est plutôt du côté de la déraison.
I beg to differ, said the kingfisher. A single one of my feathers is worth a million stars.